Et depuis toujours, normalité et monstrueux ont cohabité. L'histoire des monstres est très présente dans la vie des hommes et nombreuses sont les créatures monstrueuses qui ont fait l'objet d'études. La notion elle-même d'ailleurs de monstre a beaucoup évolué, on va le voir au fil du temps, et les scientifiques s'y sont intéressés de très près pour comprendre entre autres les mécanismes du développement dans le vivant, des monstres mythologiques aux anomalies de la nature. Le dossier de l'émission est donc consacré aux monstres et aux monstruosités. J'attendais maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
Un mythe va s'effondrer dans un instant à la une de la science.
Oui, un mythe musical qui tient depuis 200 ans puisque les violons du célèbre luthier italien Stradivarius ne passent pas l'épreuve du test à l'aveugle et sont jugés inférieurs aux meilleurs violons actuels. On en discute avec l'acousticienne Claudia Fritz qui a mené l'enquête.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de Science Improbable de Pierre Barthélémy qui s'est demandé cette semaine si les rats avaient des orgasmes. Stéphanie Texier réalise cette émission qui a été préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les monstres et les anomalies dans la nature, dossier donc dans quelques instants avec mes invités que je salue, le journaliste Laurent Lemire et l'embryologiste Jean-Louis Fischer. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Laurent Lemire, c'est l'anormalité qui est au cœur de votre enquête sur les monstres, une anormalité que l'on trouve d'ailleurs autant dans les corps que dans les cerveaux malades.
Oui, ce sont à la fois les monstres qui nous font peur et ceux qui nous gouvernent quelquefois.
Et donc cette enquête, vous allez nous en parler, elle fait l'objet d'un livre, Jean-Louis Fischer, l'anormalité, c'est très important aussi pour étudier les mécanismes du vivant. Et on peut dire que les monstres ont fait avancer la science quand même.
Tout à fait. À une certaine époque, le scientifique va considérer le monstre comme un objet pour apprendre et connaître la normalité.
Ouais. Cette époque est révolue aujourd'hui ?
Ah non, on peut toujours...
Non, on continue toujours à s'y intéresser.
Bien sûr. Ouais, beaucoup moins qu'à une certaine époque, quand même.
Ouais, certains, donc, dans leur laboratoire, fabriquent des monstres. Lesquels, vous nous direz tout cela dans un instant. Et pour observer quoi, avec les messages, donc, toutes les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Ils étaient considérés comme les meilleurs violons de l'histoire, inimitables et surtout très chers. La suprématie des violons Stradivarius tombe face à la méthode scientifique et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Je voudrais vous demander quel est le violon que vous allez jouer ce soir.
C'est le Stradivarius de 1716.
Vous avez beaucoup d'autres violons?
Non, pas beaucoup, j'ai encore des violons, mais pas cette qualité.
C'était le violoniste Nathan Milstein qui parlait donc avec amour de son Stradivarius en 1969 et à la une donc aujourd'hui cette publication franco-américaine publiée dans la revue PNAS qui démontre que lors de tests à l'aveugle, donc les musiciens ne sont pas capables de différencier un Stradivarius d'un violon actuel et pire encore, ils jugent les violons modernes meilleurs que les Stradivarius. Claudia Fritz, vous êtes avec nous pour en parler, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'auteur principal de cette étude, vous êtes acousticienne au CNRS pour l'université Pierre et Marie Curie. Comment est venue l'idée de ces travaux et pourquoi vouloir tester la suprématie des Stradivarius avec un protocole scientifique?
Alors l'idée de ces travaux vient du fait que cela fait plusieurs années que je travaille à faire corréler des propriétés de qualité des instruments, telles que perçues par les musiciens, avec des propriétés mécaniques et acoustiques que l'on peut mesurer donc avec des outils acoustiques. Et il y a d'autres gens qui s'est attaqué à ce problème avant moi, mais à chaque fois, ils prenaient des instruments qui disaient bon et mauvais pour pouvoir essayer de voir des différences. Mais leur supposé, c'était que les bons instruments, c'était des strades et les mauvais instruments, c'était des violons neufs. Et donc, on se demandait, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à trouver des corrélations parce que les outils physiques, mécaniques n'étaient pas assez fins, ou est-ce que parce que le présupposé de base n'était pas bon? Donc c'est pour cela qu'on a voulu s'intéresser à cette suprématie des violons italiens, voir s'il était effectivement avéré.
Alors comment on fait pour tester le Strad, vous dites Strad pour Stradivarius, contre les violons actuels dans un protocole scientifique?
Alors on l'a fait de plusieurs manières, suivant la question à laquelle on se posait. Donc dans une première partie, on s'était intéressé au point de vue des musiciens. Donc en fait, le principe, c'est de leur faire tester en aveugle pour qu'il n'y ait pas le prestige du mot Stradivarius qui entre en ligne de compte dans leur perception. Donc en aveugle, ça veut dire concrètement une obscurité assez importante et puis des lunettes douce soudeur, ce qui leur permet de voir quand même, garder leurs repères et voir le contour des violons, mais pas voir des des tailles de vernis, voilà. Donc comme ça, ils pouvaient pas savoir quel violon ils jouaient. Mmh. Et puis leur poser des questions sur sur ce qu'ils pensent. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, dont les résultats ont été publiés là, ça s'intéresse aux auditeurs. Donc là, en fait, c'était en double aveugle, c'est-à-dire que les musiciens étaient en aveugle, derrière un rideau acoustiquement transparent sur scène, dans une salle de concert, et les auditeurs, du coup, de l'autre côté du rideau dans la salle. Et donc, ni les musiciens, ni les auditeurs ne savaient quel violon était joué.
Alors, on peut proposer aux auditeurs de refaire le test dans des conditions de radio. On va faire écouter successivement deux extraits identiques joués par le violoniste Leila Kahler. L'un est joué sur un Stradivarius, le deuxième sur un violon moderne. Et à vous de chercher le Stradivarius et de choisir celui que vous préférez. On écoute le premier.
Donc là, Axel, il s'agit d'un des deux violons.
On ne dit pas lequel.
Stradivarius au moderne.
Et donc, maintenant, la même phrase, deuxième extrait. Alors, Claudia Fritz, avant de donner le résultat, est-ce que vous êtes capable de trouver le Stradivarius au téléphone?
Alors, au téléphone, ça c'est sûr que non, avec en plus mon bébé qui joue en fond.
Non, bon, de toute façon, il faut avoir l'oreille très, 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 très fine. Hein. Il faut être vraiment un musicien professionnel pour pouvoir le distinguer, non?
Eh bien, en fait, mais non, puisque même les auditeurs experts ne sont pas arrivés à faire la différence. Enfin, en tout cas, quand je dis faire la différence, c'est pas qu'ils n'entendent pas de différence entre les différents violons qu'ils ont écoutés, mais ils ne pouvaient pas catégoriser de manière systématique que tel violon était ancien et tel violon était neuf.
Alors, on peut donner le résultat quand même. C'était le premier, le Stradivarius, et le deuxième a été plébiscité lors de vos tests. On peut peut-être réécouter directement le deuxième, celui qui a été plébiscité. On l'écoute maintenant. Alors, quelle différence de prix entre ce violon et un Stradivarius?
Oh, je pense un facteur 100
ces deux violons.
Comment voilà. Vous expliquez vos résultats et surtout, actuellement, la réputation encore très forte des Stradivarius?
Alors, je pense que ça vient de leur histoire. Stradivarius en reste néanmoins le père de la lutherie moderne. Ces violons donc ont permis en fait de devenir ce que sont les violons actuellement, avec toute l'évolution esthétique qui a eu lieu en 300 ans. Ils ont survécu à 300 ans d'histoire, ont traversé des guerres, ont été joués pour la plupart par des musiciens exceptionnels. Donc du coup, tout cet aspect-là joue un rôle évidemment prépondérant. Et prépondérant parce qu'en fait, notre perception, elle résulte de processus qu'on appelle descendant, c'est-à-dire que notre perception n'est pas liée uniquement au stimulus physique, donc en l'occurrence là, le son qu'on entend, mais également liée aux attentes qu'on a. Et donc, en l'occurrence, quand on connaît le pedigree de l'instrument, qu'on sait que c'est un Stradivarius, on a de telles attentes liées au prestige de celui-ci, que cela va changer au niveau neuronal, c'est-à-dire au niveau du cerveau, la perception. Donc les gens qui disent « j'entends différemment », ils ont raison, ils l'entendent effectivement différent. Mais c'est pas dû au signal acoustique, mais c'est dû à l'attente qu'ils ont, aux attentes qu'ils ont par rapport au prestige de ces instruments.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet Stradivarius comme il y a un effet placebo en médecine?
Voilà, c'est un peu ça, c'est ça.
Comment réagissent les violonistes à qui vous montrez vos résultats?
Alors, les jeunes violonistes, dans l'ensemble, sont plutôt contents, parce qu'ils espèrent que ça va effectivement faire changer, un peu bouger les choses dans ce domaine,
hein.
Que ça va leur permettre de pouvoir se présenter sans honte avec un violon neuf et être invités dans des grandes salles de concert prestigieuses, même s'ils n'ont pas un Stradivarius. Hein. Voilà, après, il y a toujours évidemment des sceptiques qui disent « mais moi j'ai fait le test, quand même, les Stradivarius sont meilleurs ». J'ai dit « mais vous avez fait le test en aveugle ?» Non, je dis « ben voilà ». Donc voilà, après, je pense que ceux qui ont envie, qui sont ouverts d'esprit, qui ont quand même écouté et joué plein d'instruments, ils n'ont pas de difficulté à être convaincus. Les autres, Voilà.
Bon, ben, la science vient de faire s'effondrer un mythe. Alors, grâce à vous, Claudia Fritz, hein, première auteure donc de cette publication franco-américaine qui vient de paraître dans les PNAS. Merci beaucoup d'être venue nous en parler dans La Tête au Carré. À bientôt, Claudia Fritz.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir, Axel.
Au revoir.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les enregistreurs de vols qui perturberaient la migration des petits passereaux. C'est une découverte plutôt inquiétante qui nous vient des États-Unis. Une équipe d'ornithologues a voulu s'assurer que leur dispositif de 4 mg chargé de traquer les déplacements des oiseaux ne gênait pas la bonne migration des parulines azurées, cette espèce de passereau bleuté d'une dizaine de grammes qui chaque année fait l'aller-retour entre les États-Unis et la cordillère des Andes. Eh bien, les résultats sont sans appel. À leur retour en fin d'été, seuls 16% des animaux équipés d'un enregistreur sont revenus, contre 34% chez ceux qui ne portaient qu'une simple pastille colorée. Une perte de la moitié donc des oiseaux étudiés qui pourrait amener les scientifiques à revoir leurs pratiques de suivi. Une molécule capable de transformer une souris paresseuse en véritable athlète, eh bien, ajoutée à leur nourriture en laboratoire, une molécule GW a permis à des souris de courir 100 minutes de plus que leurs congénères non dopés, soit un gain de performance de 70%. Agissant sur les cellules musculaires, la GW stimule l'utilisation des graisses comme source d'énergie à la place du sucre et permet une meilleure endurance tout en stabilisant la glycémie. Déjà classée comme produit dopant, les chercheurs craignent maintenant une recrudescence de sa vente au marché noir. Et puis, il y a 10 millions d'années, nos ancêtres devenaient capables de métaboliser l'alcool éthylique, une mutation génétique mise en évidence par des chercheurs américains et qui a eu lieu au moment où les primates arboricoles et frugivores ont été contraints de descendre des arbres pour ramasser des fruits tombés et pourrissants. Les premières ivresses ont donc eu lieu bien avant l'apparition d'Homo sapiens et auraient même en partie guidé l'évolution, car selon les chercheurs, l'ingestion d'éthanol ralentit le métabolisme, facilite la digestion et favorise le stockage des graisses. Ils ajoutent que nos ancêtres auraient notamment recherché très tôt ces effets sur l'humeur qui auraient favoriser leur caractère aventureux. Allez les monstres, c'est le dossier de l'émission dans un instant. Et c'était Radiohead à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà notre émission au pays des monstres gentils ou pas d'ailleurs, puisque c'est la normalité qui nous intéresse cet après-midi avec les dérives et la normalité dans la nature. Mes invités, Laurent Lemire, vous êtes journaliste au Nouvel Observateur et donc vous publiez Monstres et monstruosités. C'est aux éditions Perrin. À vos côtés, Jean-Louis Fischer, vous êtes embryologiste, historien des sciences, membre honoraire du Centre Alexandre Coiré du CNRS et vous avez signé entre autres Monstres, histoire du corps et de ses défauts aux éditions alternatives avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur France Inter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Laurent Lemire, qu'est-ce qui vous a donné envie de mener l'enquête sur les monstres et les monstruosités au départ?
Parce que là, si la norme rassure, la normalité fascine. Et quand on va dans des foires, je me souviens quand j'étais gosse, on passe devant des vitres déformantes, c'est ça, c'est-à-dire que le corps se déforme, on a tous fait un peu ça, ça fascine un peu, puis ça nous rassure parce qu'on n'y reste pas très longtemps quand même.
Ouais. Monstre et monstruosité, alors on peut les distinguer tous les deux?
Oui, le monstre c'est le personnage, c'est la créature, la monstruosité c'est un peu le monstre moral, c'est-à-dire on passe du propre au figuré, et en gros cette bascule elle intervient au 19e siècle.
Ouais. Alors Jean-Louis Fischer, vous êtes embryologiste? Quel est le rapport avec les monstres dans le cadre de vos travaux scientifiques?
La tératologie, c'est-à-dire la science des monstres, a joué un rôle important justement dans la compréhension du développement normal.
Ouais, tératologie, on retient le mot. C'est vraiment la science des monstres.
C'est la science des monstres, on a appelé, c'est Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dans les années 1830, un peu à la fin des années 1830, nomme cette nouvelle science la tératologie. C'était important pour deux raisons, parce que jusqu'à cette époque, on considérait un peu le monstre comme un jeu de la nature, comme quelque chose de miraculeux. Le 18e siècle s'est un peu plus intéressé aux monstres. C'était l'idée que s'étonner à leur vue, ce n'est pas savoir. Donc il y avait ce désir déjà de savoir ce que c'était, à quoi correspondait, c'est autre que soi-même. Donc le 18e siècle s'est intéressé au monstre dans sa forme, dans ses organes, dans son squelette. Mais là, c'était pas suffisant parce qu'on pensait que c'était encore des jeux de la nature. Et il fallait l'intégrer dans une science. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle, et en particulier avec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, que le monstre qui paraissait peut-être encore comme un jeu de la nature a dû être intégré dans son idée générale qui s'est forgée d'une unité de la nature. Tous les organismes de la nature étaient construits sur un même plan et dans un même ordre. Alors donc, il fallait donner cet ordre au monstre. Alors le monstre, pour Geoffroy Saint-Hilaire, en effet, il l'a démontré anatomiquement qu'il correspondait à un ordre qui était celui du normal et à une structure particulière qui lui était propre, mais qui était une organisation qui pouvait se comprendre et qui rentrait, encore une fois, dans une norme. Et c'est à partir de là, c'est son fils donc qu'il donne à cette science, après une classification, parce que pour avoir un objet scientifique et pouvoir le connaître et l'étudier, il faut savoir de qui et de quoi on parle.
Donc on classe les monstres, vraiment?
Alors, il a fallu un classement, mais vous disiez jeu de la nature, aussi jeu divin, parce que on considérait... Absolument. Avant le 19e siècle, que le monstre nous démontrait quelque chose, on ne savait pas trop bien quoi, mais que c'était une envoyée divine.
Oui, mais je peux vous dire que certaines personnes, aujourd'hui, continuent à le penser.
Ouais.
Vous avez des personnes qui considèrent que donner naissance à un enfant mal formé, ça peut être une punition divine.
On considérait que la mère était d'ailleurs responsable de la naissance de monstres. Dans l'Antiquité,
beaucoup de stigmatisation autour des mères, justement.
C'est le mystère de la naissance, de la vie. On comprenait pas pourquoi la nature pouvait produire de la normalité.
Tout à fait. C'était la raison pour laquelle, déjà à Rome, dans certains milieux, les femmes enceintes étaient dans des jardins avec des belles statues pour pouvoir s'imprégner d'une belle image et pouvoir la retransmettre à leur fœtus.
Laurent Lemire, donc il y a vraiment ce tournant avec Geoffroy de Saint-Hilaire dans la façon dont on approche et dont on s'occupe de la question des monstres.
Bien, on commence à prendre effectivement au 19e siècle le sujet de manière scientifique, c'est-à-dire qu'on va penser le monstre, on va le classer, parce qu'après il va y avoir tout un tas de catégories de monstres pour essayer de comprendre comment la vie, le mystère de la vie, comment la vie se transforme et comment elle peut donner finalement naissance à quelque chose d'anormal. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi de la naissance? Parce que à cette époque, il y a même eu, on ne distinguait pas, on considérait que le sexe était encore un peu indéterminé au sein du le fœtus et que c'était en fonction de tout un tas de paramètres que c'était un homme ou une femme. Il y a eu des débats sur
Jean-Louis Fischer.
Là, on peut retourner encore à Étienne-Geoffroy Saint-Hilaire sur cette unité du monde vivant et de son organisation. Il considérait que chez l'embryon, il y avait deux systèmes qui existaient chez lui dès le départ. C'était le système sexuel. Mmh. L'embryon était aussi bien... Il avait des structures pour faire aussi bien un garçon qu'une fille, par exemple. Et c'est pour ça, quand ça marchait pas très bien, on avait un hermaphrodite. Ça expliquait la raison de la naissance d'hermaphrodite, parce qu'au départ, l'embryon, et on le sait bien aujourd'hui, hein, possède les deux systèmes qui vont se différencier à la suite d'un code génétique et de l'action hormonale. Donc on a quand même une idée qui est relativement juste dès les années 1800. Geoffroy Saint-Hilaire fait des expériences pendant la campagne d'Égypte justement pour essayer de montrer la dualité sexuelle chez l'embryon.
Alors justement, on va écouter un extrait du film La Vénus Noire d'Abdelatif Kechiche qui est sorti sur les écrans en 2010. C'est un extrait dans lequel on va entendre justement les personnages de Cuvier et de Geoffroy de Saint-Hilaire.
C'est bien, Sarah! Ne craignez rien, nous n'allons pas vous faire de mal.
Voyons voir maintenant le plus intéressant de son anatomie. Alors, la largeur de ses hanches dépasse les 18 pouces et la saillie de ses fesses est de plus d'un demi-pied. Tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas, monsieur de Saint-Hilaire? Vous qui avez fait des monstruosités de nature votre sujet d'étude favori, vous devez être tout à fait ravi.
On ne le pourrait plus, monsieur Cuvier.
Vous noterez, s'il vous plaît, que l'examen de ses fesses confirme que cette protubérance n'est nullement musculeuse et qu'une fois les avoir tâtées... Non, n'inscrivez pas cela.
Cela va de soi.
Bref, que ses fesses forment une masse de consistance élastique et tremblante.
Voilà, extrait de La Vénus Noire, La Vénus Hottentote, évidemment, personnage éminemment célèbre, Laurent Lemire, et qui a été montré dans les foires, hein, au tout départ.
Hein. Oui, ça fait absolument comme pas mal de monstres, entre guillemets, parce qu'on les appelait comme ça. De toute façon, aujourd'hui, on dirait on parlerait de handicap. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui gagnaient, enfin, qui étaient exploités et qui gagnaient de l'argent sur le compte de ces personnes.
Ouais, Céline demande d'ailleurs à quelle époque est-ce qu'on a commencé à montrer les monstres dans les foires? Ça fait longtemps justement qu'on a voulu attirer le public de cette façon-là?
Ça commence dès la fin du Moyen-Âge et ça continue durant jusqu'au 17e, 18e siècle beaucoup. Mmh. Et on a continué même au début du 20e siècle aux États-Unis, on montrait encore. Barnum, c'est ça. C'est-à-dire le cirque Barnum montrait des personnages, les freaks. Ce sont les monstres qui avaient un succès colossal, qui faisaient peur d'une certaine manière, mais qui fascinaient les gens.
Ouais. Jean-Louis Fischer, au sujet de la Vénus Hottentote, justement, on parlerait de handicap aujourd'hui, tout simplement, non?
Non, mais c'était un caractère ethnique, disons. Mmh. Voilà. Pour pas dire autre chose. Quant à l'exposition des monstres, en effet, le 19e siècle est encore très preneur dans les foires, et il faut dire que l'interdiction de montrer des formes tératologiques n'est pas si lointaine que ça, puisqu'elle, je crois, elle date de la fin des années 80, début des années 90, mmh. où on n'a plus de monstres qui sont exposés. Généralement, il y avait toujours une baraque où il y avait un cyclope ou un anencéphale qui était montré au public. C'était un peu embêtant. C'est aussi l'histoire, je ne sais pas si on en parlera, sur les musées, c'était de montrer ce qu'on peut appeler la monstruosité, c'est-à-dire une forme anatomique qui n'est pas viable. Hein. C'était de montrer c'est possible que l'embryon peut produire sans en expliquer la forme et les origines. Hein. Mmh. On montre un objet comme ça sans l'expliquer, il est évident que c'est pas très pédagogique.
Ouais. Mais ces musées existent encore aujourd'hui.
Alors le problème, c'est que
ils sont en train de disparaître.
Oui, si vous voulez, on peut en dire un mot simplement, c'est que nous avions, surtout à Paris, nous avions un des plus grands musées d'anatomie humaine et comparé, c'était le musée à la faculté des Saint-Père qui a été mis en caisse en 2005. Dernièrement, nous avons le musée du Pitrin qui était un musée d'anatomie. C'était un des premiers, c'était même le premier musée d'anatomie pathologique qui avait été fondé par Dupuytren, par le legs de Dupuytren en 1835. Donc c'est un musée ancien qui avait enrichi ses collections. Et c'était un musée vraiment témoin de son époque et d'aujourd'hui. Et il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait beaucoup de monde. Il est fermé maintenant, il est dans un sous-sol.
Malheureusement, qu'on y voyait?
On y trouvait notamment le squelette d'un monstre qui a eu beaucoup de succès au XVIIIe siècle, qui circulait, un vénitien qui circulait dans toute l'Europe et qui avait la particularité de mesurer, je crois, 78 cm. Donc il était très très petit et il était ce qu'on appelle phocomèle, c'est-à-dire qu'il avait les membres supérieurs et inférieurs atrophiés.
Et pourquoi ces musées ferment les uns derrière les autres alors? On ne veut plus montrer cela au fond aujourd'hui, une sorte de tabou.
Vous posez une question fondamentale.
Parce que vous êtes battu pour le maintien du musée du Puitrin, par exemple.
Oui, on a fait signer une pétition qui a recueilli beaucoup de signatures. À Lyon, il y avait aussi un musée d'anatomopathologie qui a également fermé. Donc on est dans une situation assez curieuse. On a l'impression qu'il y a quelque part une interdiction pour le public, parce que c'est le public qui est privé.
De montrer des corps qui sont dans la normalité.
Allez, on se retrouve dans un instant. On poursuit notre discussion avec les messages des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
Bas de laine, un petit feu, une canadienne, avec les yeux bleus, mes doigts se promènent dans ses cheveux, voilà la scène, et me voilà heureux, heureux, si tu savais, en fait jouer un peu, moi c'est tout ce que je voulais. Une paire de bottes, une camionnette, elle un peu saute, elle ma majorette en petite culotte sur la banquette, même qu'elle zozote. Et voilà, c'est chouette, si tu savais jouer un peu en fait, moi c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est chouette, si tu savais, je sais, je le répète, mais c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Vraiment. Des talons hauts dans le bureau. Scénario ou un tailleur dans l'ascenseur, 5 à 7 heures, que du bonheur, qu'elle me menotte, qu'elle me soumette, qu'elle me ligote dans la cachette, sur les velours, sous les miroirs, elle est juste pour la petite histoire. Oh là là là, oui oui, quand c'est comme ça, bah c'est beau la vie, tout le cinéma, tous les scénarios. Je ne voulais que ça. Voilà, c'est dit. Moi, c'est tout ce que je voulais. Ben voilà, je l'ai fait.
Et c'est Mathieu Bogarts avec Bas de laine sur France Inter, des monstres et des monstruosités. Donc dans le dossier de la tête au carré cet après-midi avec mon confrère du Nouvel Obs, Laurent Lemire. Ce livre Monstres et monstruosités, c'est aux éditions Perrin. Et puis Jean-Louis Fischer, embryologiste. Alors on parlait de l'arrivée de la monstruosité et de l'anormalité dans les laboratoires, hein, parce qu'on s'y intéresse évidemment pour comprendre les mécanismes du vivant. Laurent Lemire, justement, ça a été vraiment des travaux importants aussi que vous décrivez d'ailleurs dans votre ouvrage, cette façon, voilà, de consacrer du temps à la tératologie.
Oui, de manière très très scientifique justement. Ça, à partir de des années 50, notamment Edith Wolff était un des pionniers de cette nouvelle science qui s'intéressait aux anormalités du vivant, enfin tout au moins aussi sur la compréhension de l'embryon.
Alors on va écouter justement la voix d'Étienne Wolff, biologiste. Ce son date de 1991, il est extrait des Chemins de la connaissance sur France Culture et il nous raconte ce qu'il fabrique dans son laboratoire.
Bon, alors le premier monstre que j'ai produit...
Ça fait bizarre d'entendre ça.
En faisant une intervention extrêmement précoce, c'est un monstre absolument invraisemblable. C'est ce qu'on appelle un omphalocéphale, ce qui veut dire tête dans l'ombilic, et c'est vrai. La tête était, en somme, enveloppée dans la région stomacale et œsophagienne, et il en résultait une monstruosité absolument invraisemblable. Mais ils avaient deux foies, ils avaient le cœur sur le cou, enfin, une série d'invraisemblances, mais qui sont maintenant extrêmement bien expliquées.
Voilà. Et alors ça, on pouvait le faire, on peut toujours le faire dans les laboratoires, Jean-Louis Fischer, ce type de manipulation.
Ça ne se fait plus, je pense, il n'existe plus de laboratoire qui se consacre uniquement à la production de monstres comme le faisait comme on le faisait dans le laboratoire d'Étienne Wolff.
Mais on peut le faire quand même, à votre avis, ou pas, encore aujourd'hui?
C'est facile.
C'est monnaie courante.
Oui, Nicole Ledoirin a fait en partie. Enfin, c'est Chimère. Enfin,
c'est autre chose. Mais Étienne Wolff, je voulais dire simplement que Étienne Wolff marque une étape particulière dans l'histoire de la tératologie. Si on parlait tout à l'heure d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ou d'Isidore, son fils, ils mettent une science des monstres, surtout par la classification.
Il y a des degrés de monstruosité, on peut presque dire les choses comme ça.
Bien sûr. On appelait les monstres, en fait, comme ça allait de un doigt supplémentaire, c'était une polydactylie, jusqu'à une anencéphalie ou une acéphalie qui n'est pas viable. Alors ça, c'était aussi un petit peu dommage et même irrespectueux d'appeler quelqu'un qui avait un doigt supplémentaire, de l'appeler un monstre. Donc
une anencéphale, c'est quoi exactement?
Alors, un anencéphale, c'est une absence de voûte crânienne, c'est le tube nerveux qui est resté à plat, qui n'était pas formé en cerveau, donc la voûte crânienne ne s'est pas formée.
Oui.
C'est une des anomalies, une des monstruosités les plus communes chez l'homme, qui sont généralement dues à des problèmes d'alimentation, de défauts en certaines vitamines.
Mais on peut vivre longtemps avec cette anomalie,
avec l'anencéphalie. L'anencéphalie n'est pas viable. Un anencéphale meurt à la naissance ou de quelques heures à quelques jours, mais ne vit pas très longtemps. On a dit des fois qu'il y en avait qui vivaient des années.
C'est faux. Il y a des légendes sur certains humains nés avec ce type de handicap qui auraient vécu plus de 30 ans. Ça vous paraît faux?
C'est faux, oui.
Ouais. Non, au musée du Puitrin, il y avait un cyclope, mais qui était encore à l'état vital.
C'était il y a... Dans le temps, dans l'Antiquité, on voit Hérodote ou ces gens-là, on croyait à l'existence de races humaines qui étaient monstrueuses. On croyait qu'il y avait des races de cyclopes, de siréniens, qui avaient juste une seule jambe avec un énorme pied qu'on appelait les siapodes, et qui étaient
qui se protégeaient du soleil avec leur pied unique.
Et qui étaient des formes très agressives, qui protégeaient des territoires.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de messages d'auditeurs qui sont très curieux, évidemment, de cette question de la monstruosité. Erwan nous dit ceci: est-ce que le monstre n'est pas à la marge, en positif comme en négatif? Ainsi, Michael Phelps, le nageur, Albert Einstein, ne serait-il pas également des monstres à leur façon?
La normalité, on peut effectivement... on peut la prendre sous différentes formes et on peut avoir une anormalité positive, évidemment, et une anormalité très négative si on prend des monstres politiques, des gens qui ont complètement détourné un pouvoir ou un pouvoir absolu.
Vous parlez d'Hitler, par exemple, clairement.
Oui, mais Hitler et bien d'autres. Donc là, il y a une forme d'anormalité qui est extrêmement, extrêmement négative, oui. Mais on peut considérer que les génies sont aussi des anormaux positifs.
Jean-Louis Fischer.
Voilà, oui, c'est une anormalité qui rentre dans une normalité, en fin de compte. Et on pouvait peut-être préciser pour les auditeurs, quand on parle de monstres, là on avait donné quand même une catégorisation de l'échelle, de la gravité en fait, du défaut anatomique. C'est pour ça, Étienne Wolff en a beaucoup parlé. Pour lui, il y avait le monstre, le véritable monstre, c'est celui qui n'est pas viable. Hein, ce sont des défauts très très graves qui se produisent tout au début de l'embryogenèse. Et puis il y a des malformations qui sont des handicaps, hein, comme petit pépin, ce fameux faux commel. Et il y a l'anomalie où c'est simplement un petit défaut qui n'entrave en rien la vie normale de la personne qui en est atteinte.
Thomas demande à l'origine que représentaient les monstres. Est-ce qu'ils étaient forcément annonciateurs de catastrophes? Et maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, vous montrez bien ça, Laurent Lumière, justement. L'évolution du mot en lui-même, selon les époques, il est chargé de plusieurs significations.
Le monstre était censé montrer quelque chose et il était envoyé par les dieux à l'époque antique. Ensuite, on a des tas de récits dans la Bible de personnages monstrueux qui sont là pour indiquer quelque chose, une catastrophe. Donc l'arrivée d'un monstre dans ces récits est quand même annonciateur de quelque chose de très négatif. Et ça s'est un peu perpétué parce que même Chateaubriand considérait, alors que, esprit quand même rationnel, considérait que le monstre était annonciateur de quelque chose de terrifiant.
Oui, Jean-Louis Fischer.
Oui, alors il y a le monstre annonciateur. On en a des célèbres comme le monstre de Ravenne qui annonçait la bataille de Ravenne avec les Italiens et les Français. La mort d'Alexandre est annoncée par la naissance d'un monstre. C'est très curieux, le XVIIIe siècle, on a un dictionnaire, c'est le dictionnaire de Trévoux, dans lequel on trouve le terme tératoscopie. C'est-à-dire, ça montre bien, justement, comment le monstre peut être divinatoire, quelque part, généralement, c'est d'une catastrophe. Et aujourd'hui, il faut dire, quand même, aujourd'hui, c'est très important, parce qu'il y a toujours la naissance monstrueuse est annonciatrice, quand même, d'une catastrophe. On a eu ces vaisseaux en Italie, mais à Hambourg, hein, on a à la même époque, il y a eu des accidents comme ça. Il y a des journaux qui ont montré des enfants nés avec des malformations très très graves. On a fait cette relation qui n'est pas toujours exacte, mais on l'a quand même fait. On a montré le monstre comme indiquant un danger. C'était celui du chimique qui pouvait atteindre.
Absolument. Mais là, c'est l'homme lui-même qui engendre finalement.
Et aujourd'hui, nous avons la même chose. Par exemple, nous avons dans les guerres chimiques, dans les armes qu'on appelle aujourd'hui avec de l'uranium appauvri qu'on enrichit à l'occasion et qui ont montré dans certaines régions, je pense par exemple à Fallujah où on n'a presque rien dit là-dessus parce que l'OMS est bloquée justement pour dans ces rapports, où on a des naissances tératologiques qui indiquent justement le danger, qui sont témoins aujourd'hui encore d'un danger.
Un monstre né de l'atome et né du radioactif, c'est Godzilla, ce héros de la science-fiction américano-japonais. On en écoute un extrait.
Je prépare un recensement pour le gouvernement. J'établis la liste des espèces nouvelles qui me paraissent résulter directement des fuites et de la contamination.
Et tu crois que c'est ça qui a créé cette chose?
Ouais. Ce soir, j'ai même prélevé un échantillon de son sang. On sait qu'il mange des tonnes de poissons, que c'est un amphibien, un fouisseur, et aussi, il est enceinte.
Godzilla!
Voilà, Godzilla, ça c'était le film réalisé en 2014, Laurent Lemire. Godzilla, un des monstres gentils quand même, hein, que vous avez répertorié.
Oui, ça fait partie des monstres inquiétants, parce que monstres radioactifs, mais qui est là pour protéger le Japon,
c'est
parce
ça.
Que c'est une création de l'après Seconde Guerre mondiale, après Hiroshima et Nagasaki, donc on a créé, c'est une des conséquences d'une monstruosité qui est l'arme atomique, d'avoir ce monstre-là, mais qui est censé être bénéfique. Il y en a d'autres, il y a effectivement, alors le Casimir, les longs enfants, c'est la création du monstre gentil, mais le monstre du Loch Ness, il est absolument pas dangereux, il est même assez profitable pour le tourisme.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on se retrouve dans un instant avec la suite de ce dossier sur les monstres et les monstruosités et vos messages franceinter.fr.
To dust. Film.
Cette exhibition est dégradante pour ceux qui la regardent, pour cette malheureuse créature.
Oh, mais c'est un monstre.
Regardez, mes amis. L'homme éléphant.
Je ne suis pas un éléphant. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Je suis un homme.
Voilà, qui n'a pas été saisi d'émotion en regardant évidemment Elephant Man, hein, cet extrait donc du film de David Lynch sorti en 1980 sur les écrans. Laurent Lemire, ça c'est vraiment une scène qui est caractéristique, emblématique de toute la question de la monstruosité au cinéma, hein.
Oui, et c'était justement là pour bien montrer que ces personnages étaient traités de manière inhumaine, trimballés de foire en foire par des gens qui en tiraient profit. Et c'est l'arrivée d'un peu d'humanité et de prise en compte de la souffrance de ces personnages qu'on considérait comme n'appartenant pas au genre humain. Ouais. Et on a, par la suite, dans les années 30, le Freaks, parce qu'il y a Barnum qui faisait ça aussi, qui faisait tourner des personnages comme ça, des créatures, donc soi-disant inhumaines. Et Todd Browning, quand il a créé Freaks, il a dit « moi je vais vous les montrer », et c'est à partir de là qu'on a pris un peu en considération les handicaps et comment on pouvait soulager ces gens.
Ouais, on voit dans le cas d'Elephant Man, Jean-Louis Fischer, que ce sont les médecins, au fond, les scientifiques aussi, qui sortent ces personnes de leur état d'animal de foire. Hein.
Je crois qu'il faut donner ici peut-être une précision entre ce qu'on appelle monstres. Les monstres, c'est des organismes qui naissent donc avec des malformations graves, mais c'est toujours congénital. Elephant mal, c'est une pathologie, c'est une neurofibromatose. L'albinisme, c'est génétique. Donc il y a aussi dans cette terminologie, dans cette présentation, alors on prend le terme monstre comme un terme générique qui est employé pour chaque fois qu'il y a un défaut quelque part, qui peut être physique, qui peut être psychique ou autre, on emploie ce terme de monstre qui est aujourd'hui difficile à employer en fin de compte. Et qui, mais pour des pathologies ou pour des tératologies, il est vrai que ce terme est assez inapproprié aujourd'hui.
C'est Larry qui nous dit, qu'est-ce qui est monstre aujourd'hui? Un albino, s'est-il classé parmi les monstres? Une personne aux yeux verrons, nanisme, hypertrichose, alors ça c'est l'hyperpilosité, c'est ça? Les siamois, l'hyperlaxité, alors ça c'est Pierre Barthélémy qui nous a dit tout à l'heure ce que c'était. Qu'est-ce que c'est Pierre, l'hyperlaxité?
Et le fait d'être extrêmement souple, c'est l'homme élastique.
Voilà, c'est ça. Et de pouvoir faire ce qu'on veut avec, ses doigts et ses membres, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui est monstre aujourd'hui, Jean-Louis Fischer?
Oh bah c'est surtout le monstre social, voilà. Le monstre physique, non.
Laurent Lemire, oui, il y en a presque.
Vous êtes d'accord avec ça?
Puisqu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de progrès dans le domaine de la médecine qui font qu'on peut éviter. Alors, il y a encore des histoires. La thalidomide avait été un médicament que dans les années 50 que des femmes enceintes prenaient et qui donnait des enfants atteints de d'atrophie des membres.
Oui, alors la thalidomide, c'était un tranquillisant qui était donné depuis très longtemps à des enfants, pour les enfants un peu agités. On leur donnait la thalidomide. Et après, en 60, on l'a donné aux femmes enceintes pour éviter certains désagréments des premières semaines de grossesse. Mais le problème, on s'est aperçu très vite que cette molécule était tératogène et donnait des malformations des membres en particulier.
Oui, donc l'homme créateur d'anormalité aussi aujourd'hui, avec de très nombreux exemples. Dans le domaine de la chimie en particulier.
Jean Rostand parlait de l'orgie médicamenteuse qui n'était pas sans risque pour l'homme, comme on a parlé aussi des risques de tous les instruments de guerre qui sont créés par l'homme pour détruire l'homme.
Absolument.
On est dans des systèmes qu'il faut dénoncer.
Laurent Lemire, les écrivains évidemment, les cinéastes s'inspirent très largement des monstres, de personnages très très connus qu'on revisite au fil de votre ouvrage.
Oui, alors il y a le personnage sans doute le plus emblématique, c'est Frankenstein, la créature de Frankenstein. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux cas. On a à la fois la créature monstrueuse fabriquée à partir de cadavres qui est là pour faire peur, mais qui est porteuse d'une certaine humanité finalement, quand on relit bien le livre et quand dans pas mal de versions cinématographiques. Et puis il y a le docteur Frankenstein qui lui-même est un monstre.
Le scientifique lui-même.
Oui, voilà, et qui se prend pour Dieu, puisqu'il veut il veut créer la vie à partir de la mort.
Ouais, Jean-Louis Fischer, alors ça c'est une question scientifique, évidemment, cette suspicion parfois aussi de celui qui dans son laboratoire fabrique des choses monstrueuses.
Alors là, si vous me permettez, il y a quand même une évolution dans cette relation entre la production de monstres et sa destinée, en fin de compte. Étienne Voth, on en a parlé. Étienne Voth, c'est le premier qui s'intéresse vraiment à fabriquer des monstres pour en étudier la genèse. Avant, ça fait longtemps pas si longtemps que ça. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire avait essayé, mais ça n'a pas marché. Mais il y a eu vraiment une science tératologique qui se met en place, c'est avec l'embryologie expérimentale qui naît dans la fin des années 1880. Et c'est très intéressant parce que là, vous allez avoir des scientifiques qui, pour la première fois, vont oser faire un geste sur les premières cellules de l'œuf. Alors, ils utilisent de l'invertébré marin, ils utilisent de l'oursin, de l'étoile de mer.
Ça passe mieux.
De l'acide. Je sais pas que ça se passe mieux, mais c'était un nouvel outil pour un nouvel objet d'expérimentation. Et c'est important parce que c'est là que se crée ce qu'on peut appeler une science du blastomère. C'est-à-dire, vous avez des embryologistes qui, au début, vont séparer les deux premières cellules pour voir comment ces ces cellules vont se développer elles-mêmes. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a deux sortes de développement. Il y a des animaux, lorsqu'on sépare ces deux premières cellules de l'œuf, eh bien, les cellules produisent un embryon anormal. Il y en a d'autres, quand on leur retire ces deux premières cellules, bah, produisent deux embryons tout à fait normaux. Même quand ils ont quatre cellules, comme l'oursin, par exemple, on peut lui retirer une de ces cellules. Et c'est à partir de là qu'on a de l'invertébré, qu'on est passé au vertébré inférieur et ensuite dans les années 50 au lapin et ensuite à l'homme. C'est de là que vient ce qu'on appelle le dépistage préimplantatoire, car l'œuf humain réagit comme l'œuf d'oursin. On peut lui retirer une de ses cellules et pouvoir l'examiner. Donc on voit que depuis longtemps on a une pratique qui peut arriver jusqu'à l'homme, et on oublie les malformations qui se sont faites pour donner un moyen d'une normalité, en fin de compte.
Avec la compréhension sur les mécanismes du vivant. Hein. Merci beaucoup à tous les deux. En tous les cas, Laurent Lemire, Monstres et Monstruosité. Donc, cette évocation des monstres, vraiment, depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, c'est aux éditions Perrin. Et puis, Jean-Louis Fischer, Monstres, Histoire du corps et de ses défauts, c'est Alternative. Et puis, vous avez une conférence également qui sera donnée très prochainement. Je vais donner la date. Ce sera samedi 20 mai, de 15h à 18h, au bord de la péniche Adélaïde, à Paris. Et toutes les infos sont sur le site de La Tête au Carré. Merci à tous les deux.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Sujet très intéressant avec vous, Pierre, bonjour.
Bonjour.
Pour parler des rats.
Oui, Mathieu, est-ce que vous seriez d'accord pour vous mettre à la place d'un rat en rut ou d'une rate en chaleur?
Pas vraiment comme ça, a priori.
Allez, c'est pour la science.
Oui, bien sûr.
Non, bon. Dommage, car si cette métamorphose était possible, ça aiderait également, grandement, une équipe canado-mexicaine qui s'est demandé en 2016 si les rats avaient des orgasmes.
Très intéressant comme question.
Oui, ces chercheurs étaient bien embêtés. Les rats n'étant pas dotés de la parole, sauf dans les dessins animés, il leur est difficile de nous déclarer à quel pied une fois qu'ils ont joué à la bête à deux dos. Comment savoir alors si ces rongeurs ressentent comme nous ce que l'étude en question présente comme, je cite, « un des événements les plus merveilleux et agréables que nous puissions expérimenter » ou au contraire, est-ce que la jouissance sexuelle est réservée à l'espèce humaine?
Alors comment ils s'y sont pris pour répondre à cette interrogation cruciale?
Avec un concept simple, on recense tous les indices physiologiques qui chez l'humain signalent l'approche d'un orgasme, son feu d'artifice et ses retombées, et on essaye de les retrouver chez le rat. Ces indices sont de plusieurs ordres et comme il est difficile de faire un dessin à la radio, je vais bien être obligé de les décrire. Alors, un influx sanguin dans les tissus érectiles que sont le pénis et le clitoris, des contractions musculaires du périnée, la mise en branle de tout un dispositif neurochimique qui va jusqu'à la libération d'opioïdes dans le cerveau, l'éjaculation chez l'homme et la contraction de l'utérus chez la femme, des vocalisations diverses, enfin la relaxation, un sentiment de satiété et ce qu'on appelle la détumescence. Alors, les auteurs de l'étude ont exploré l'abondante littérature scientifique consacrée à la copulation chez les rats pour tenter d'y retrouver tous ces indices. Alors notez, Mathieu, que ces chercheurs avaient eux-mêmes contribué à enrichir cette littérature avec des études antérieures où l'on stimulait le clitoris des rats avec un pinceau en poil de chameau numéro 4.
Ah oui, c'est très précis. Ouais.
Ah, mon petit Mathieu, la science c'est précis ou ça n'a aucun intérêt. Ouais. Pour la petite histoire, je signale que les rats en question poussaient des petits cris, indétectables par les humains car ils étaient émis dans le domaine des ultrasons, mais qui étaient parfaitement audibles pour les rongeurs. Notons aussi que chez les rats, les femelles prennent l'initiative de la copulation qu'elles exigent de leurs compagnons, qu'ils remettent souvent le couvert jusqu'à 4 fois, et que leurs ébats se terminent souvent par des bagarres. Bref, quoi qu'il en soit, le résultat final est parlant. Que ce soit sur le plan des contractions musculaires, de l'activation d'un système de la récompense, des sons émis, du comportement post-coitum, les rats mâles et les rats femelles manifestent à l'égal des humains tous les signes d'un véritable plaisir sexuel. Ouais. On est content pour eux.
Donc il y a de l'orgasme chez les rats, vous nous le confirmez. Et on retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément, Pierre?
Alors cette semaine, nous nous demandons si oui ou non l'intelligence artificielle est sur le point de révolutionner la médecine.
Merci beaucoup à vous. La semaine prochaine, chronique à réécouter sur franceinter.fr. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidal.
Affaires sensibles, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
De l'Islande face à la crise en 2008. Comment l'Islande plonge, quasi faillite, et comment elle remonte. Et notre invité Pascal Richer, spécialiste des questions économiques à l'Obs, a écrit le livre intitulé « Comment l'Islande a vaincu la crise ».
À tout à l'heure.